Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 157, Jean-Mathieu Collard, jamais trop tard. Chers amis, bonjour. Vous savez que nous, le hasard, nous n'en avons jamais marre. Mais parfois, sur le tard, on a comme des regrets ou des remords. On se dit qu'on n'a pas eu raison, on a eu tort. Aujourd'hui, notre invité est un architecte. Et quand je l'ai rencontré récemment, pour la première fois, il m'a dit « Moi, je ne construis pas ». Alors, je me suis dit, il n'est jamais trop tard pour comprendre. Alors, un architecte qui ne rêve ni de maison, ni de pont, qui ne veut pas une Trump Tower au bord du Rhin, et qui affirme « je suis un architecte pour faire du rien », on se dit « voilà quelqu'un d'assez insolite pour l'inviter dans notre émission toujours bizarre, vous l'avez bien connu ». Donc bonjour Mathieu Collard.
Bonjour Laurent Fignon, Ambroise.
Oui, Ambroise Perrin, parce que il y a longtemps, je ressemblais un petit peu, voilà,
et on s'était... Et réciproquement.
Voilà, alors, vous construisez quoi ? Je sais que vous faites des choses toutes plates, comme par exemple des cours de récréation pour des écoles, c'est ça ?
Ah, c'est pas faux, mais ça c'est surtout mon associé, mais en fait, c'est pas que je construis pas, c'est que je ne construis plus, parce que j'ai pas mal construit dans ma vie, et j'ai décidé, il y a quelques années, d'arrêter de construire, et vous allez voir, c'est même pas encore tout à fait vrai. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de réparer, de restaurer, de réhabiliter, d'adapter au climat.
Vous faites du neuf avec du vieux.
Je fais de l'actuel avec de l'existant.
D'accord. Vous connaissez cette définition de Georges Perec, faire du neuf avec du vieux, pour les mots croisés ?
Ah.
Nonagénaire.
C'est pas mal. Hein ?
Donc, vous réhabilitez plutôt que...
Moi, je réhabilite, on fait beaucoup de choses, hein. Tous ces mots-là, ils veulent dire à peu près la même chose.
Oui,
c'est on prend un bâtiment et on se débrouille pour qu'il n'y ait plus personne dedans et on le rend quelques temps plus tard, on a dépensé de l'argent et soit il sert à la même chose, soit il sert à autre chose et il est assez conforme aux horribles normes actuelles, aux multiples règles actuelles, mais en même temps à des standards de confort.
Oui, mais alors nous les Alsaciens, on a eu la chance, alors là je fais une blague, d'être occupés par les Allemands à partir de 1870 et puis vers 1900 on a construit des maisons absolument magnifiques, le Neustadt, moi j'habite une maison, un immeuble qui date de 1903, les murs sont en grès, font un mètre d'épaisseur et tout, et là maintenant au bord du Rhin, là, enfin vers la deux rives, on construit des tours avec du placoplâtre qui monte jusqu'au ciel, et on sait très bien que ça va être démoli dans 20 ans, enfin, ou 30 ans. Enfin, vous n'allez pas pouvoir le donner en héritage à vos enfants. On construit de façon totalement éphémère.
Alors, c'est très étrange. Je ne savais pas que j'avais affaire à un docteur en construction.
Non.
J'ai eu peur qu'il soit docteur en esthétique. Je vais vous dire que ce que vous dites est faux.
Ah bon ? Ah, c'est solide
Écoutez, une tour, plus que d'autres bâtiments, doit répondre à des règles. Et il y a notamment des règles qui s'appliquent sur notre territoire, qui sont les règles parasismiques. Donc ces bâtiments, quand il y aura un séisme, ils resteront debout. Qu'ils sont prévus pour, alors que ce qu'ont fait les Allemands ne l'a pas été. Mais ils resteront peut-être aussi.
Parce que c'est épais et tout. Voilà.
Le séisme se fie de l'épaisseur. Oui. D'autres règles.
Moi, j'ai 3,80 m de plafond.
Ah.
Là, maintenant, les maisons, c'est combien ? 2,80 m.
Je suis d'accord avec vous.
Pour mettre une bibliothèque jusqu'au plafond, pour pouvoir mettre plus de livres, c'est foutu quand même.
Ouais, mais en même temps, on n'a pas besoin d'échelle pour aller chercher celui de la rangée d'en haut. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je reprends la pub de Renault. Le vrai luxe. C'est l'espace.
Oui, c'est l'espace. Oui, c'est le volume.
Oui, c'est ça. Oui. Et moi, si vous voulez faire construire des logements avec des chambres de 9 mètres carrés, je veux pas.
Oui.
Simplement, y a plein de gens qui vont le faire, donc moi je veux
pas. Vous faites autre chose. Alors justement, Jean-Mathieu Collard, vous avez fait la prestigieuse école à Strasbourg du Palais du Rhin. C'était avant le boulevard Wilson. Hein.
C'est ça. C'était pas hier.
Voilà. Et c'était les architectes qui avaient encore une éthique, qui était, enfin, c'était un peu l'ENA de l'architecture.
Oh, comme vous dites. Non.
Pour les journalistes.
C'était l'école d'architecture. Je crois que les architectes, les jeunes architectes, parce que j'en vois pas mal, parce que j'ai un peu fait des cours à l'école d'architecture, boulevard Wilson, ils ont une éthique morale par rapport justement à la planète, par rapport aux ressources, par rapport au territoire, par rapport au paysage que nous n'avions pas.
Ah oui.
Ouais, ils ont que ça. C'est des choses qui savent.
C'est des choix politiques, des choix écologiques.
Bah c'est des générations, c'est une génération. L'écologie, rappelez-vous, en 1974, Dumont était un écervelé. Oui, c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, si on n'est pas écologique, on n'existe pas en politique. Enfin, on fait figure de gars qui ne sait pas regarder comment le monde tourne.
Oui, de marionnettes, là.
Voilà.
Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc, les jeunes architectes ne pensent pas seulement à construire des cages à lapins moches gagner des sous.
La fameuse cage à lapins.
J'ai fait exprès de vous balancer le cliché.
Bah, la cage à lapins, je sais pas si... Bon, la baie sur l'extérieur a la largeur et la hauteur de la pièce. Si toutes les chambres étaient vitrées du sol au plafond et de mur à mur, elles seraient pas mal, hein, les chambres. Il faudrait qu'elles soient un peu plus grandes. Oui, il y aurait peut-être trop chaud au sud, mais... Oui, donc la notion de cage à lapin, ça veut dire la trame, hein, c'est ça ? Ça veut dire quoi ? Moi, je vais vous dire que les architectes, ils construisent ce qu'on leur commande et on leur commande ce qu'on peut se payer.
Voilà. Autrement, et donc, ça coûterait beaucoup plus cher.
Autrement, ça ne se ferait pas.
Oui, mais on n'achète pas un appartement avant 35 ans.
Non, mais
on a déjà 10 ans d'économie derrière soi.
On ne peut pas mettre en cause les architectes de vendre, de concevoir des produits que les gens peuvent acheter. Je vais vous dire autrement, les gens s'achètent des chaussettes à 1 euro les 5 paires, et ils les lavent 3 fois, et elles sont toutes déchirées. Parce qu'ils ne peuvent pas se payer des chaussettes à 15 euros qui tiendront beaucoup plus longtemps. Mais notre monde déconne. C'est pour ça que je ne veux plus produire de chaussettes, ni construire Vous voyez,
Donc, vous avez des remords, alors ? Ou des regrets, enfin...
Ouais, bah, j'aurais espéré... J'ai fait quelques projets dont je suis fier, et je le suis encore, mais j'aime pas être en contradiction avec moi-même quand je dois concevoir.
Mais avec vos clients, parce qu'il faut quand même gagner votre vie. Alors, vous m'aviez dit que vous aviez la parole persuasive, hein, c'est du Bourdieu, ça.
Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi, ça ? Ça, c'est un effet de l'âge. Ça, c'est un truc, c'est que dans ce métier-là, on fait une école, prestigieuse ou pas. Je ne sais pas si c'était très prestigieux, mais enfin, on fait une école. Après avoir fait l'école, on travaille, et là, c'est étonnant, on est un jeune architecte. Et un jeune architecte, ça dure très longtemps. C'est contrairement à plein d'autres métiers, le jeune architecte, c'est jusqu'à 40 ans au moins. Et après, il y a du doute. Et après 5 ans, moi j'ai l'impression que c'est entre 50 et 55 ans, j'ai eu une autorité que je n'avais pas...
Une notoriété
pas... Bah ouais, bon, enfin, vous savez, je passe aussi pour un sale con, hein. Enfin, j'ai pas de doute, hein. Enfin, comme tout le monde, hein, on a des ennemis, on a des... Enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce moment où on a de l'expérience, on a du savoir-faire. Ça, c'est des choses, ça s'achète pas, hein. C'est des années de pratique. Et quand on parle, eh bien, c'est notamment avec les entreprises...
Oui. Alors, Jean-Mathieu Collard, êtes un sale truc. Comment vous arrivez à les convaincre, les gens des entreprises qui sont vos clients, pour faire un...
C'est pas mes clients, c'est les clients de mes clients. Mes clients, les entreprises travaillent pour mes clients et moi je travaille pour le même client. Mais moi, j'ai pas de relation avec les entreprises. Quand on est architecte, si vous voulez, on
cloisonne.
On a notre mission nous est confiée par un maître d'ouvrage qui passe des contrats de travaux avec des entreprises. Mmh. Et nous, on est chargé de la conception du bâtiment et de la bonne exécution de ces contrats de travaux. Mais moi, je n'ai aucune relation contractuelle et financière avec des entreprises.
Donc, ça passe par le langage, alors ? Vous leur racontez, vous leur expliquez ?
Parler langage, parce qu'on a, on a plusieurs langages. Mmh. On a la parole, on a le texte, parce qu'on écrit des choses. On écrit beaucoup, c'est un métier, on écrit beaucoup plus.
Et vous dessinez aussi.
Et voilà. Et on dessine. Oui. Et on dessine. Et par exemple, moi, quand je vais sur un chantier, vous voyez, j'ai un mètre dans ma poche, j'ai un crayon dans ma poche, et moi, je dessine sur les murs et pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça, les entreprises, quand on leur a dessiné sur le mur, ils prennent une photo, quoi. Et ils vont faire pareil, quoi. Ils vont faire ce qu'il a dessiné.
Ah, oui. Vous voyez, oui. Donc, vous pouvez faire de l'architecture avec un crayon de papier pour dessiner, mais aussi avec des mots, hein, parce qu'il faut les convaincre.
Oui, c'est...
Donc,
Faut les convaincre.
Il faut expliciter votre vision.
Oui, c'est ça. Puis il faut la faire comprendre que c'est ça qu'on a commandé. Et s'ils n'ont pas compris, on va leur expliquer que c'est ça qu'on a commandé.
Ah oui, alors vous leur dites voyelle, consonne, jusqu'à ce qu'ils soient d'accord. Est-ce que vous faites des concessions ?
Ah, écoutez, oui. Quand on fait... on fait souvent des parallèles entre les architectes et les chefs d'orchestre. Et alors, vous avez déjà entendu ça, l'architecte. Oui. Alors, on a vraiment. C'est faux.
Ah
bon. C'est faux. D'abord.
Vous ne faites pas des tierces picardes, non.
Non, mais des fois, il arrive que ce soit l'orchestre qui choisisse son chef. Le chef n'a pas écrit la partition. Le chef fait répéter l'orchestre, plus souvent, fait répéter l'orchestre. Je ne sais pas combien de fois de suite, jusqu'à ce que tout le monde se soit mis bien pile poil.
L'harmonie en fonction de... Voilà.
Et on joue, et tout ça avec une mesure. Lui, il donne la mesure. Et j'étais à l'opéra, la dernière fois, j'ai compté, sont montés sur scène tous ceux qui avaient joué, enfin tous les acteurs, les danseurs. Il y avait le chef d'orchestre, il y avait la chef d'orchestre, la décoratrice, la lumière, enfin tout ça. Il y avait 70 personnes. Et il y avait en plus tous les musiciens. Et
dans
ces gens-là,
et
ces gens-là, ils tournent pendant 3h30 à peu près au tempo du chef d'orchestre. Moi, j'ai 3 entreprises le lendemain. Un plâtrier, un carreleur et un peintre. J'essaye de les coordonner pour qu'ils interviennent. Et ils me disent la semaine prochaine. Bon, leur tempo, c'est une semaine. Et puis en plus, ils me disent, on est au mois de mai, alors c'est pas sûr. Parce qu'il y a plein de jours fériés. Hein. Mmh. Vous voyez ? Donc on n'est pas du tout dans... Et moi, je ne les ai pas choisis, les entreprises, parce que souvent, c'est par appel d'offres. Et vous voyez, c'est pas mes entreprises. Oui, elles arrivent, voilà.
Le chef d'orchestre, c'est pareil, il n'a pas choisi peut-être le soliste violon et l'alto, mais le reste...
Soit c'est l'orchestre qui choisit son chef, soit c'est le chef qui choisit ses solistes.
Alors, je peux vous dire que l'orchestre universitaire de Strasbourg, ils se réunissent tous ensemble et ils choisissent leur chef pour 2 ou 3 ans.
C'est ça, c'est ce que je vous dis.
C'est très démocratique et lui, il fait plutôt du contemporain. Ben, lui, il vient de diriger du Stockhausen. Cette année, on veut faire du Bach. Donc, on va choisir quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Mais ce n'est pas les entreprises qui choisissent l'architecte. Hein.
Non.
Vous voyez, donc on n'a rien à voir, en fait, dans la relation est-ce qu'on va appeler ça du pouvoir ? Mais oui, on fait des négociations.
Mais alors, vous avez quand même une inspiration. Bon, il y a des chefs, pas trop... Il y en a qui dirigent tellement vite et tout. Ils ont des gimmicks ou d'autres qui sont exubérants ou d'autres... Birnbaum qui dirige au minima et c'est génial. Bon, ça vient aussi des répétitions. Vous, votre inspiration, si j'ai bien compris, c'est parce que vous faites des balades à vélo. Parlé de Laurent Fignon, merci beaucoup. Donc vous vous baladez en vélo et là, sur votre, quand votre dérailleur ne vous fait pas de blague, vous avez l'idée de quoi alors ? Puisque c'est...
Alors j'ai pas, c'est pas sur mon vélo que j'ai l'idée. Sur mon vélo, je vois ce qui se fait. Je regarde beaucoup et je me rends compte que Parce que je suis allé assez loin, hein. J'ai un projet de faire le tour de la France. Et la France est assez belle, vous savez. La France est assez belle. Oui. Et la France est assez moche aussi. Et souvent, la France est moche parce
les entrées
que...
Oui, si on va de Brumath à Strasbourg, c'est moche.
Ça dépend par où on passe.
Mais si on passe les petites routes le long du Rhin, oui, c'est beau.
Ah ben voilà, ça dépend. Alors, des fois, je dis l'erreur est urbaine. Oui.
Elle est bonne, celle-là. Est bonne, hein. On va la répéter. L'erreur est urbaine.
Mais oui, l'erreur est urbaine. Mais c'est comme ça, il faut bien qu'on travaille, qu'on vive ensemble.
Alors, quand vous faites le tour de l'Eurométropole à vélo, ouais. Ça fait une cinquantaine de kilomètres, donc ça vous fait une après-midi.
Ouais.
Vous avez la digue le long du Rhin, ça c'est magnifique. Mais vous avez aussi des quatre voies, vous ne pouvez pas faire autrement.
Oui,
et puis il y a des chemins de terre, peut-être.
Ouais, c'est ça. On passe d'un paysage, d'un chemin à une route. Je vais pas sur les autoroutes, j'ai pas le droit, mais je fais des parcours assez. Je trace un peu géométriquement. Je vais aller de là à là, et puis après j'essaye de tenir cette limite parce que ça donne un peu de l'aléa à mon tourisme et je découvre. Voilà.
Et alors, vous arrêtez de temps en temps avec un carnet et vous notez des idées pour votre boulot
Alors, je note des adresses. Je dis, c'est rue des Fleurs à Wolfisheim, parce que j'ai vu quelque chose rue des Fleurs à Wolfisheim. Vous voyez, c'est...
Qui vous plaît.
Ou pas.
Il faut surtout pas faire ça.
Ouais, c'est
et
ça.
Et alors, vous cherchez le nom du confrère qui a fait ça ou...
Non, mais des fois, je me... Après, moi, je fais des recherches, Je retrouve ça sur Google et tout, et puis on voit comment ça a évolué. Il y a même le temps sur la carte de Google. Vous avez déjà vu ça? On peut reculer dans le temps pour voir... Parce qu'il y a un grand, grand problème. La France est moche, mais alors, c'est pas que les entrées de ville. C'est ma prime rénov. Ma prime rénov, c'est une monstruosité. C'est une horreur. Vous savez ce que c'est? C'est pour 1 euro isoler votre maison.
Oui.
Vous connaissez ça.
Ils vous téléphonent tout le temps. Moi, je leur dis à chaque fois, quand le téléphone sonne, je réponds, désolé, la maison a brûlé.
Moi, je leur dis que je suis mort, en pensant qu'ils vont s'arrêter.
Oui, voilà.
Et en fait, c'est en train de détruire la micro-architecture banale. C'est-à-dire toutes ces maisons qui avaient un petit encadrement en pierre, un perron, une petite verrière sur l'entrée, polychrome, là, avec du verre armé, des volets battants, des bords de toiture, des 5-6 briques pour faire un petit linteau au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte. Enfin, vous voyez tout ça.
C'est joli, c'est charmant, ça me suffit. Voilà.
C'est pittoresque, c'est vernaculaire. Il y a plein de mots pour le dire.
Et on met des colombages en polystyrène qu'on repeint.
Ah non, mais quand on met les colombages, c'est déjà qu'on fait un effort, hein, monsieur.
Ah oui.
Non, on met rien. On met rien, il n'y a plus d'appui de fenêtre.
Oui. Et donc,
ça devient un machin.
Et donc,
ça
ma prime rénov', c'est quoi alors?
C'est un
gros truc de plastique autour.
C'est du polystyrène comme celui qu'il y a dans la boîte dans laquelle vous achetez votre télé, là. Mais au lieu d'être moulé, c'est des grosses plaques. Et elles sont blanches ou grises.
Unifugées, j'imagine, quand même.
Grises, oui, c'est ça. Un peu. Et tac, 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 je te mets ça, je te maçonne ça, on va dire, des grosses briques comme ça. Et puis après, je te mets un revêtement plastique épais. C'est déjà le nom, ça vous donne envie. Hein. Un revêtement plastique épais sur une épaisseur de polystyrène. Je ne sais pas, je ne vais pas
entamer... C'est pour isoler du chaud et du froid, non ?
C'est pour isoler... Thermiquement.
Alors, ça marche quand même.
Heureusement, parce que ça. Alors, pas toujours, parce que si vous n'avez pas bien fait les choses et qu'à l'intérieur vous aviez déjà une isolation et puis que vous voulez compléter par l'extérieur et qu'entre les deux il y a un pauvre morceau de bois qui était là depuis 100 ans et qui vivait sa vie, là il va se mettre à pourrir tout seul. Parce qu'il n'y a plus d'air. Il n'y a plus d'air et il va crever et tout va tomber. Donc non, ça c'est une catastrophe et il faut lutter franchement contre cette détérioration des paysages, vous voyez, dans les villages, dans les...
Les paysages et les ruines, comme dit Flaubert.
Voilà.
Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies... interrompu, il revint. C'est dans l'éducation sentimentale, vous voyez, je le sais.
Magnifique,
je le sais par cœur. Alors, Jean-Mathieu Collard, vous n'êtes pas un architecte solo, vous travaillez dans, avec, non, des, avec est, des collègues, est, vous êtes dans un 10. Studio.
Ouais, voilà, ouais. Vous êtes 10. Alors, on dit une, alors, on dit une agence.
Et alors, vous êtes une agence, oui.
On dit, nous on dit.
Oui, mais alors vous êtes tous d'accord ou
non.
Vous faites semblant?
Ah non. Non, on est plus ou moins d'accord, mais j'ai un... En fait, moi, je suis un peu l'éléphant dans la maison, parce qu'ils sont tous beaucoup plus jeunes que moi, par des aléas de l'histoire inutiles à raconter. Et,
alors, eux ne pensent pas qu'il est trop tard pour sauver la planète, vos collègues dans l'agence?
Il faudrait que je leur pose la question. Mais
ils vont vous écouter, si le patron...
Parce mais que je ne suis
êtes...
pas... Non, on est associé.
On est associé. C'est pas la même chose.
Tout le monde est pareil.
Mais ils vont vous écouter.
Oui. On s'écoute tous.
Ah oui, donc
il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont... on est plus ou moins détendu par rapport à ce sujet-là, parce qu'il y a quand même des sujets...
Comment vous faites pour vous convaincre le compromis? Il y a un vote, comment on fait les amendements qui font qu'on est d'accord à la fin? Non.
On est d'accord. On est d'accord parce qu'en fait, il y a des spécialités. Il y a des gens qui savent faire des... On a un monde qui fait beaucoup de parking. On a un monde qui fait beaucoup de piscines. Vous voyez, c'est des trucs... Enfin, je dis un monde. Je parle de 10 personnes, alors ça fait des groupes comme ça. On fait de la médiathèque, on fait des choses...
Ah, c'est l'horreur, médiathèque. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas bibliothèque, médiathèque maintenant? Vous savez qu'il y a des médiathèques qu'on peut louer où on empruntait des machines à coudre. Non, mais c'est-à-dire que c'est Disney World. Alors, c'est très bien qu'on emprunte des machines à coudre et qu'on fasse du petit bricolage et du macramé. Ouais. Mais c'est-à-dire que le livre papier, qui est quand même la base de toutes les bibliothèques municipales, 300 habitants, il y a une chorale, un bistrot et une bibliothèque. Ben, ça n'existe plus. À Strasbourg, il n'y a plus de bibliothèque. Il n'y a que des médiathèques.
Ouais, à la médiathèque Malraux, il y a quelques livres.
À la médiathèque, oui, et il n'y a même pas un Pléiade.
Ouais.
Ah ouais. Ah ben alors, c'est quoi ça? Non. Bon. Fin de la digression. Ça veut dire qu'alors que si vous vous promenez dans tous les villages et tout, voyez le mot bibliothèque qui est écrit sur un panneau blanc en lettres bleues par le peintre municipal, c'est moche et tout, mais vous voyez en grand bibliothèque municipale où les retraités ou quand le papy meurt, la famille donne les livres gratuitement à la bibliothèque. Il y a des gens qui viennent et je me suis baladé un peu, j'ai demandé. Ça marche très bien, les gens... voilà.
Oui, mais alors, en l'appelant médiathèque, et c'est pour ça que...
Ce que vous dites, les mangas, on met tout.
Oh, ce que vous dites est juste. Mais ce qui est juste aussi, c'est que le bistrot a disparu. On est passé de 30 000 à 4 000, je crois, en France, un truc comme ça.
Les stations d'essence aussi.
Voilà, c'est ça. Et à la médiathèque, il y a la presse. Et les gens viennent lire la presse. Les gens viennent... Non, mais c'est un lieu de sociabilité. C'est un nouveau lieu de sociabilité. C'est pas uniquement un lieu de... Je prends un lieu...
Là, vous avez... Oui.
Et ça, c'est important.
Oui.
C'est un lieu de rencontre, un lieu de
Stammtisch à la médiathèque.
Oui, c'est aussi des lieux de micro-spectacles pour attirer les jeunes générations.
Que des tablettes vidéo électroniques
qui ont peu de livres à la maison. Je dis ça autrement.
Oui. Ça, c'est un truc quand on rentre dans une maison, alors pas en tant qu'architecte, mais moi en tant que, disons, amateur. La première chose, parfois je suis surpris, des gens super sympas et tout, il n'y a pas un bouquin au mur.
C'est ça.
Il n'y a aucun livre.
En même temps, on n'a pas besoin de faire des grands apparts. Ils n'ont pas besoin de mettre des bibliothèques de 3,50 m.
Oui. Oui. Ma fille, elle a calculé, j'ai 10 000 bouquins, vous voyez.
Ouais. Voilà. Faudrait commencer à lire les 9 000 derniers. Hein.
Oui. Mais non. J'ai fait des tests. Elle en prend un au pif. Bon, forcément, je ne l'ai pas lu, mais je sais ce que c'est.
Ah oui.
C'est Brasillac, par exemple. Ouh, au secours. Vous voyez, non, mais ouais. je sais ce que c'est. Donc, j'ai pas un bouquin qui est là par accident, par hasard. Mais il faut des grandes bibliothèques. Et alors, le truc, là, on a encore une minute. À un moment, vous en avez trop des bouquins et vous pouvez pas, comme on dit, écarter les murs. Hein. C'est une phrase qu'on entend quand on dit qu'on va s'agrandir. Ma bibliothèque, j'élargis les rayons. Et donc, je mets les bouquins sur 2 ou 3 couches.
Ouais, c'est pratique, ça, pour chercher derrière.
Eh ben. Comment on fait? Je fais une photo de la première couche.
Ouais.
Et ensuite, je fais une photo de la deuxième couche et je mets une troisième couche. Ce qui fait que quand je cherche un livre, je regarde mes photos, je vois qu'il est là. Ouais. J'enlève un petit peu, hop, j'arrive à le prendre. Oui, ça, c'est un truc que les architectes ne font pas, ça.
Je sais pas, si, parce que moi j'ai fait mes étagères et j'ai fait des planches qui avaient...
Avec des roulettes ?
Non, j'ai fait des planches qui avaient la profondeur moins 1 cm des livres. C'est-à-dire la collection blanche, vous voyez, oui. Parce que j'aime pas du tout la poussière sur les étagères. Donc il suffit que l'étagère soit moins profonde que le livre.
Et donc le livre dépasse.
Il dépasse.
Oui, mais vous pouvez pas en mettre une deuxième couche, là.
Non, non, non.
Bah, vous êtes un architecte minimaliste.
Bah... Peut-être, mais pareil, vous voyez, les BD et tout, elles sont. Je trouve que c'est plus joli. Et quand ça déborde, ben, je prends un carton, je mets les livres que oui. j'ai depuis très longtemps et que je sais même pas ce que c'est et que j'ai jamais lu.
Et vous les donnez dans une cabane aux livres ou dans les.
Moi, je vais même pas aussi loin parce que comme j'habite au centre-ville, je le descends en bas de chez moi. Et dans la demi-journée, il est vide.
Oui, mais autrement, vous avez des boîtes à livres partout, c'est vachement bien.
Ouais, il y en a partout.
Place Brandt.
Oui, voilà, il y en a à l'Orangerie, tout voilà. ça. Ouais.
Bon, non. Donc, il y a des architectes qui aiment les livres. Donc,
j'adore.
Eh ben voilà. C'était l'épisode numéro 157 de « Vous l'avez bien connu » sur Radio Judaïca Strasbourg. Jean-Mathieu Collard, jamais trop tard. Alors, dites-moi, parce qu'il y a toujours une petite question avant la fin... Vous habitez dans une cabane, dans la forêt vous avez dit, non mais je me moque. Hein, mais,
j'aimerais bien.
Est-ce que vous avez une maison avec un jardin ou un grand appartement avec des hauts plafonds ou une cage à lapins, hein, comme vous n'aimez pas, moderne, dans le quartier de Rives, non?
J'ai un trop grand appartement avec des plafonds hauts. Et comme c'est trop grand, je cohabite. Avec des musiciens, un écrivain.
Ça, c'est... Ah ben, voilà.
Voilà.
Ben, voilà. Très bien. Donc, vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre quête de l'apologie des petits riens qui font que la tarte au fromage, c'est ce que préfèrent les Alsaciens. C'était pour la rime. À la technique, Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin. Like you and I. No connection between them whatsoever.